L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 17 juillet 1918. Dans quelques mois, la Première Guerre mondiale prendra fin. En attendant, le pays est traversé par une intense vague de chaleur. 37 degrés. Un soleil de plomb accable le fort de la Chartreuse, cette forteresse bâtie par les princes-évêques sur les hauteurs de Liège au XIXe siècle. L'immense bâtisse de briques rouges foncées, cachée par une végétation luxuriante, sert de prison pour les patriotes belges depuis l'arrivée des Allemands. Il est 17h, c'est l'heure H de mon histoire. Dans la cour intérieure, deux prisonniers russes rejoignent le commandant allemand Blumer avec des pelles. Ils sont chargés de planter des poteaux et de creuser des fosses. Au même moment, deux officiers déchargent un camion garé devant le portail. Ils en descendent deux cercueils et les déposent, ouverts, dans la cour. Nul doute, ici se prépare une exécution. Louis et Anthony Collard seront fusillés demain. Louis et Anthony Collard sont des héros nationaux de la Grande Guerre. Des héros oubliés. Vous connaissez sans doute Edith Cavell, Gabriel Petit, peut-être même Philippe Bauque et Joseph Ferrand. Tous ont eu droit à des récits hagiographiques dès l'immédiate après-guerre, quand il s'est agi, à raison, de célébrer la grandeur de leur sacrifice. On a raconté leur martyre. Souligner leur grandeur face à la mort quand ils ont avancé sans faiblir vers le peloton d'exécution. On a crié à l'injustice, on a dénoncé haut et fort la barbarie des Boches. On a même élevé des monuments à leur nom. À propos des frères Collard, en revanche, la mémoire collective est moins généreuse. Et pourtant, ils n'ont rien à envier aux plus grands résistants. Leur martyre a commencé en août 1914, quand les Allemands envahissent la Belgique. Les deux frères ont 17 et 16 ans. Ce sont encore des enfants. De grands enfants, certes, mais des enfants tout de même. Les aînés d'une fratrie de 8. Louis est un grand blond au regard doux dont les yeux reflètent la sincérité de l'âme. Anthony a les cheveux châtains, la carrure large et la voix grave. Il est plus vif, plus impétueux, plus énergique que son frère. Leurs proches disent d'eux qu'ils composent ensemble une belle musique. Louis en est la mélodie, Anthony le tempo. Ils ont été éduqués dans la ferveur catholique. C'est courant en ce début de XXe siècle. Leur premier regard fut dirigé vers le crucifix et c'est en priant qu'ils apprirent à parler. Ils n'ont jamais quitté la maison sans s'agenouiller devant Jésus, ni devant leur père aussi. Léon Collard, qui leur donnait sa bénédiction. Ils ont pris l'habitude de s'endormir en chantant des cantiques, leur voix formant un chœur avec celle de leurs frères et sœurs. Ils ont connu très tôt l'épreuve et la douleur, puisqu'ils perdirent leur frère Joseph de la Scarlatine. Joseph n'avait alors que 10 ans. Puis, ils perdirent leur mère à l'issue de longs mois de maladie, Lambertine de Moulin, qu'elle s'appelait leur mère. Oh, elle était forte, sans défaillance. Animée d'une foi profonde qu'elle avait transmise à ses fils, en même temps que le sens du devoir. Du coup, quand les Allemands envahissent la Belgique, donc en août 1914, ils ne sont déjà plus que 8 dans le foyer des Collards. Le père, Léon, et les enfants, Louis et Anthony, mais aussi Marie-Thérèse, Anna, Raphaël, Madeleine et Jean. 8 à subir cette invasion brutale, cette répression massive et aveugle. On le sait. Que cette invasion fut sanglante, sans respect pour les lois, même pour les lois de la guerre. La doctrine militaire allemande préconisait de balayer par la terreur toute velléité d'opposition aux opérations offensives, afin d'aboutir à une victoire rapide, décisive. Les soldats étaient souvent ivres et surtout effrayés. Ils avaient cette psychose du franc-tireur, héritée de la guerre précédente, celle de 1870. Le franc-tireur, c'est ce combattant civil, embusqué, qui tirait sur les envahisseurs, mais qui en fait n'existe pas vraiment en Belgique à l'été 1914. Sauf que quand même, le moindre coup de feu suspect est interprété par l'armée allemande comme une preuve de harcèlement dans le chef de la population et c'est sur elle qu'elle se venge alors. Avec une rare violence, insoutenable. En quelques semaines, du 5 au 26 août 1914, 6 500 civils sont passés par les armes en Belgique et dans le nord de la France. Vieillards, infirmes, femmes et enfants sont souvent au nombre des tués. Plus de 15 000 maisons sont détruites en Wallonie. Ces atrocités allemandes, comme on les appelle désormais, médiatisées dans le monde entier dès l'époque, élèvent la Belgique en victime sacrificielle d'une guerre promue en croisade. Dinan, Tamines, Louvain comptent parmi les villes martyres. C'est aussi le cas de Tintigny, dans la province du Luxembourg, non loin de Virton, là où vivent les frères Collard. À Tintigny, les Allemands sont arrivés le 14 août, à 3 heures de l'après-midi. Jusqu'au 22 août, leur présence est, disons, discrète, sans accroc. Mais le 22 août, donc, les troupes françaises venues en renfort et retranchées derrière la Semois bombardent la tour de l'église du village. Les officiers allemands postés en observation dans le clocher sont tués sous les obus. Alors, les soldats deviennent fous et le massacre commence. Les Allemands entrent dans les maisons, brisent les portes à coups de crosse de fusil, expulsent les habitants, mettent le feu aux abris. Vers midi, ils arrivent dans la maison des Collards, qui s'était réfugié au sous-sol. Ils fouillent les coins et les recoins. Ils ne découvrent ni soldats français, ni armes, ni prétexte à représailles. Mais qu'importe, Anthony doit emporter le petit Jean pieds nus, car déjà les flammes avalent les murs de leur maison. Dans la rue, c'est le drame. Là, un homme est assassiné sous les yeux de son épouse. Ici, un couple de sexagénaires est asphyxié dans sa cave. Une partie des villageois est rassemblée dans une prairie. Alors que les soldats allemands font des gestes menaçants, simulant une exécution, un notaire à la retraite offre toute sa fortune pour sauver la vie du groupe. En vain, tous sont fusillés, sans autre forme de procès. La prairie est rouge de sang. Au total, au coucher du soleil, Tintigny pleure 89 victimes, ce 22 août 1914. 82 hommes, 3 femmes et 4 enfants. Les cadavres sont jetés pêle-mêle dans des fosses communes. Des 143 maisons du village, 106 sont brûlées. Seules les moins belles sont épargnées. Le lendemain matin, le 23 août 1914, Louis, Anthony et leur père sont enrôlés avec le reste de la population masculine et traînés sur le plateau du Chenois qui domine le village. Ils doivent servir de bouclier aux Allemands qui sont toujours bombardés par les troupes françaises. Toute la journée, ils restent debout, grillés par le soleil. Les obus vrombissent au-dessus de leur tête. Les balles sifflent à leurs oreilles. Jamais dès lors, il n'y eut plus grand soulagement dans une défaite. Quand les Français battent en retraite, les Allemands relâchent les otages. Louis, Anthony, leur père et tous ces hommes, suants et hagards, redescendent du village. Ils y retrouvent des veuves, des orphelins, des familles décomposées et sans abri. On n'a pas le temps de réfléchir, d'accueillir la peine et les deuils. Non, il faut agir, trouver de quoi abriter les familles rescapées. Les habitants s'entassent dans l'école ou dans des salles communales. Les Collards se réfugient, eux, dans un magasin de grosses quincailleries et organisent là les premières semaines de survie. Ils dorment sur de la paille, avec des rouleaux de toile métallique comme oreillers. Ils mangent dans des boîtes de conserve avec des clés en guise de fourchette. Les mois passent dans la douleur et la misère. L'armée française s'est repliée sur la ligne de défense de la Marne. Quelques 75 000 poilus belges résistent toujours sur le front de l'Isère. Le pays est totalement passé sous occupation allemande. La Belgique est découpée. l'essentiel du territoire belge forme l'Occupationsgebiet, territoire du gouverneur général dont l'administration centrale est établie à Bruxelles. Mais sur une profondeur de quelques dizaines de kilomètres derrière le front de Verdun, là où la guerre s'est enlisée dans les tranchées, s'étend l'Etappengebiet, en français le territoire des étapes. Cette zone couvre l'essentiel des départements français envahis, la majeure partie des deux Flandres, le Hainaut occidental et le sud de la province du Luxembourg, où sont toujours les frères Collard. Ici, chaque armée allemande dispose des pleins pouvoirs dans la zone qui lui a été attribuée. La répression y sera plus sévère qu'ailleurs. D'ailleurs, les civils de cette zone d'étape sont officiellement catégorisés comme prisonniers par l'armée allemande. Impossible de se déplacer d'un village à l'autre sans laisser passer. C'est difficilement donc que les frères Collard reprennent leurs activités commerciales. Ils travaillent comme marchands ambulants avec leur père, proposant dans leurs charrettes de bois du vin, du savon, des fruits, du café et même des ornements d'église. Ils entament souvent leur longue journée de marche, le ventre vide, tant il n'y a rien, vraiment, à se mettre sous la dent, et qu'il laisse toujours le rare pain noir au plus jeune de la famille. Vraiment. Vraiment, l'accès aux denrées alimentaires est une des plus grandes préoccupations de la Grande Guerre. Quand Louis décroche un emploi au comité de secours de Marbehan, la famille souffle un peu. Juste un peu. Cette rémunération est un appoint précieux, mais elle ne met aucun Collard à l'abri d'une réquisition. Depuis le mois d'octobre 1916, les Allemands font en effet peser sur la population belge la menace de la déportation. C'est que la guerre s'enlise, qu'elle a un coût humain gigantesque. Alors l'envahisseur manque cruellement de main-d'œuvre et voit dans la population occupée une option toute trouvée pour maintenir son industrie à flot. La zone des étapes est la première à être frappée par les réquisitions de masse et au total. Ce seront 120 000 Belges qui seront déportés entre 1916 et 1918. Louis échappe, mais pas Anthony, qui a la chance toutefois d'être affecté à une scierie de Bellefontaine, passée sous le contrôle de l'occupant. La chance, oui, parce que les déportations en Allemagne sont bien pires. Les conditions de détention et de travail sont telles que la plupart des déportés rentreront affaiblis, malades, voire invalides. Sans compter, évidemment, ceux qui ne reviendront pas. Travailler pour les Allemands à Bellefontaine permet à Anthony de ne pas quitter les siens. Et ce n'est pas rien. Il rentre le soir à la maison en s'écriant « Allez, vite un bain, pour plus sortir le boche !» Tout ça, la violation de la neutralité belge, les atrocités allemandes, la famine, les déportations, tout ça a nourri davantage encore le patriotisme des frères Collard. Ils n'ont pas pu répondre à l'appel du roi pour devenir soldats en août 1914. Ils étaient trop jeunes. Mais ils veulent tout de même servir leur pays. Ils veulent s'engager. Ils veulent se venger. Alors ils font avec les moyens du bord. Ils profitent de longues traversées dans le pays gommé à vendre du vin, des fruits et des ornements d'église pour repérer la topographie des lieux. Bah, qui sait ? Ils pourront peut-être mettre toutes ces connaissances au service des alliés. Il distribue aussi des journaux clandestins. La Libre Belgique et le Mot du Soldat, ça, la presse clandestine, ça remonte le moral de la population. Louis et Anthony offrent encore leurs services comme brancardiers et secrétaires à la Croix-Rouge belge installée à Tintigny. Ils aident quand il faut déterrer les victimes du 22 août pour leur donner une sépulture décente. Mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est passer la clôture électrifiée que les Allemands ont établie en 1915 le long de la frontière belgo-hollandaise pour empêcher les citoyens belges de fuir. Une clôture étroitement surveillée par des gardes qui ont l'ordre de tirer sans sommation. Une clôture parcourue en permanence d'un voltage mortel. Elle tuera 800 personnes d'ici la fin de la guerre. Si les frères Collard veulent la franchir, c'est que de l'autre côté, ils pourront s'engager dans l'armée belge, rejoindre le front par le Royaume-Uni en embarquant depuis le port de Flessingue. Louis s'est largement renseigné sur les moyens de passer cette frontière électrifiée. Il pense avoir trouvé. Anthony veut l'accompagner. Alors le 16 octobre 1917, les deux jeunes gens font leur adieu à leur famille. Monsieur Collard bénit ses fils et surpris. Cœur sacré de Jésus, protégez-les.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte le martyr des frères Collard, deux jeunes Belges, originaires de Tintigny, qui ont assisté à l'invasion sanglante des Allemands en août 1914. Trois ans plus tard, en octobre 1917, ils décident de passer la frontière belgo-hollandaise pour gonfler les troupes de l'armée belge. Ils veulent se battre au nom de Dieu et pour leur patrie. Quittant la zone des étapes sans passeport, Louis et Anthony sont contraints de bouger la nuit pour échapper à la vigilance des patrouilles allemandes. Ils empruntent des chemins détournés. Il leur faut 5 jours de marche pour gagner Liège. De là, un contact doit les aider à passer la frontière avec en perspective, le front de l'Isère. Mais peu avant de tenter la traversée vers les Pays-Bas, les deux frères reçoivent la visite du révérend Père Dupont. Ils ne le savent pas encore, mais cet homme d'église est l'aumônier de la Dame Blanche, le plus étendu, le plus efficace des réseaux de renseignement belges de la Grande Guerre. On imagine combien, au vu de l'iniquité et de la brutalité de l'occupation, la résistance s'est rapidement organisée dans le pays. La pratique du renseignement est vite considérée comme la manière la plus directe de lutter contre l'ennemi. Au total, environ 250 réseaux sont nés pendant le conflit, mobilisant plus de 6400 agents. Sous direction belge, française ou britannique, ces mouvements sont souvent pilotés depuis les Pays-Bas neutres, où les Alliés recrutent des volontaires parmi ceux qui passent la frontière. Les responsables mènent également discrètement des enquêtes en pays occupés à l'affût de nouvelles recrues. Or, le profil des Collards a tout pour leur plaire. Fidèles, courageux, solides, loyaux, croyants. Louis et Anthony ont toutes les qualités du bon agent de renseignement. C'est ce que vient leur dire le révérend Père Dupont. Alors les jeunes, vous voulez servir votre patrie? Eh bien alors restez au pays. C'est d'ici que vous pourrez aider les Alliés. En ralliant le service de la Dame Blanche. Le nom de ce corps d'observation allié, la Dame Blanche, fait référence à une légende allemande indiquant la fin de la dynastie des Hohenzollern. Les Hohenzollern, c'est le nom de la famille de l'empereur de Prusse, Guillaume II. Cette légende raconte que la mort de chaque membre de cette famille, donc, sera précédée par l'apparition d'un spectre de femme toute blanche. La Dame Blanche prédit donc la fin de l'Allemagne. Ce réseau de renseignements alliés s'appuie, comme tous les autres, sur des postes d'observation ferroviaire et d'autres d'observation territoriale. Les premiers sont chargés de surveiller les voies ferrées. Les hommes se planquent à toutes les intersections et bifurcations de nos lignes. Ils tiennent jour et nuit, l'œil ouvert, notant chaque train qui passe, le décrivant minutieusement, transmettant ainsi aux alliés des informations précieuses sur le trafic militaire allemand. Où vont les hommes? Où vont les armes? Quelle modification de front est en cours? Les postes d'observation territoriale consistent, quant à eux, à prendre en charge la surveillance d'une petite zone géographique et d'y relever absolument tout ce qui s'y passe. Il faut localiser et dénombrer les soldats ennemis, préciser leur âge, leur morale, leur état physique, déterminer leur équipement, repérer les dépôts de matériel et de munitions, les hôpitaux militaires et les aérodromes. Il faut rapporter la moindre action des Allemands. Installent-ils des barbelés? Creusent-ils des tranchées? Érigent-ils des positions fortifiées? Commettent-ils des exactions contre la population civile? C'est cette mission que le révérend Père Dupont veut confier aux Collards, car la Dame Blanche rend des services incroyables. On dit que c'est ce réseau qui fit échouer la seconde attaque contre Verdun. On dit aussi que le chef d'état-major anglais commençait sa journée en lisant les rapports de ces agents-là avant même d'avaler la moindre gorgée de café. Mais à cette époque, fin 1917, la Dame Blanche n'est pas encore implantée dans la zone d'étape et dans le territoire français voisin, cette région pourtant stratégique pour contrôler le passage des troupes entre Longuillon et Sedan. Alors, qui mieux que Louis et Anthony, qui viennent du coin, qui sont recommandés par les agents les plus loyaux, pourraient étendre le réseau dans cette zone spécifique? Le père Dupont informe les frères Collard du risque de cet engagement. « Bon, les jeunes, écoutez, si vous êtes pris, je vous le dis direct, c'est la mort. » Mais qu'importe? Qu'importe pour lui? C'est un grand oui. Il y a dans cette proposition du dévouement à n'en plus finir. Un engagement qui dépasse sa propre vie. Et c'est bien ce qu'il veut, mourir pour sa patrie. Pour Anthony, c'est plus compliqué. On le sait, plus sage, plus pratique. Il demande la nuit pour réfléchir, pour en référer à Dieu. Et pour finalement accepter. Ainsi, Louis et Anthony Collard deviennent-ils des agents d'observation. On les appelle aussi des baladeurs ou des observateurs. Ce sont des espions, autrement dit. Mais justement, on le dit autrement, car le terme « espion » n'est pas encore répandu durant cette grande guerre. Il est trop connoté, assimilé à celui du traître, à l'imaginaire de l'infâme. Leur nom de code ? Godefroy. Godefroy I pour Louis, Godefroy II pour Anthony. Comme la Dame Blanche assimile ses agents à des soldats et adopte la structure et la discipline militaire, une prestation de serment est imposée. Alors les deux frères jurent. Ils jurent devant Dieu d'accomplir consciencieusement les fonctions qui leur seront confiées, de se conformer aux instructions qui leur seront données par les représentants attitrés de la direction, de ne révéler à qui que ce soit, ni sans autorisation formelle, rien de l'organisation du service, même si cette attitude doit entraîner pour eux ou pour les leurs la peine de mort. Après une formation sommaire, vraiment sommaire, c'est pour dire, Louis et Anthony retournent donc chez eux, dans la région de Virton, Étal, Florentville, dans la plus grande clandestinité. Ils doivent y constituer un nouveau réseau, c'est-à-dire enrôler des patriotes qui seront à leur tour chargés de surveiller la zone d'étape et de leur faire rapport sur les activités et les positions allemandes. Ils avancent la nuit. Ils scrutent les portes de leurs proches en se cachant derrière des buissons. Ils ne prennent contact qu'une fois s'être assurés d'avoir le champ libre pour ne mettre personne en danger. Ils ne sont pas armés. Ils ont refusé les revolvers que mettait la Dame Blanche à leur disposition. Ils refusent de tuer, même au péril de leur vie. Quand ils ont peur, parce qu'évidemment, ils ont peur, ils pensent aux poilus qui, dans les tranchées du front de l'Isère, ont sans doute plus peur encore. En quelques semaines, Louis et Anthony Collard mènent leur mission à bien. Ils recrutent 20 agents. C'est bien simple. Aucune des personnes sollicitées n'ose leur refuser leur engagement. Les deux frères savent communiquer le feu de leur enthousiasme. La Dame Blanche est décidément bien fière de ces deux jeunes recrues. Elle a une nouvelle mission pour eux, fonder des postes d'observation au Grand-Duché du Luxembourg. Mais en attendant, repos. Les frères Collard sont rappelés à la Villa des Hirondelles, une belle bâtisse sur la rive droite de la Meuse, un peu à l'écart de la ville de Liège, qui sert de refuge aux agents compromis et de secrétariat au corps d'observation. À la villa, on trouve Jeanne Goessels, une patriote de la première heure, qui s'occupe de l'intendance et veille sur les agents au repos. C'est Jeanne, justement, qui va ouvrir la porte aux Allemands. Nous sommes le 8 mars 1918. Les frères Collard sont toujours là, à la Villa des Hirondelles. Ils sont dans le salon, penchés sur une carte du Luxembourg. Ils prennent des notes pour leur prochaine mission. Ils n'entendent pas le coup de sonnette. Quand Jeanne ouvre la porte, elle comprend de suite le danger. Face à elle, deux policiers allemands, ceux-là qui appartiennent à la Zentralpolizeistelle, et sont chargés d'assurer le contre-espionnage et la police politique sur l'ensemble du territoire. Ils sont là par hasard. Il cherche une certaine Madame Marcel, une Française, venue de Maubeuge, sans passeport régulier, comme ils l'ont appris sur dénonciation. Ah oui, c'est malheureux, mais la dénonciation des citoyens entre eux était la principale source de renseignements de la police secrète allemande pendant la Première Guerre mondiale. Madame Marcel, en l'occurrence, a été dénoncée par la sœur et la nièce de son fiancé. Les deux femmes voulaient écarter l'importune Marcel de l'héritage du vieux garçon cossu. Vieux garçon cossu qui habite dans le coin, paraît-il. Madame Marcel ? Oh, je connais pas, non ? Oh, moi, c'est Jeanne Goessels. Jeanne parle fort. Elle espère alerter les frères Collard et ils pourraient fuir par la porte-fenêtre du salon et filer avec la barque amarrée en contrebas aux rives de la Meuse. Le plus grand des deux policiers, Wilhelm Müller, est de fort mauvaise humeur. Il se demande ce que trame cette Madame Jeanne. Revolver au poing, il la bouscule et entre dans la maison, décidé à vérifier par lui-même s'il n'y a pas quelque part ici Madame Marcel. Dans le salon, c'est sur Louis et Anthony qu'il tombe. D'autrement plus gros poissons. Ils réclament leur carte d'identité. On bredouille, on fait mine de chercher et voilà que Jeanne en profite pour faire diversion. Elle s'enfuit dans la cage d'escalier. À l'étage, elle le sait, il y a 28 revolvers et 1800 cartouches. Oui, tout ça, les réserves du réseau de renseignement. Il y a suffisamment pour mettre les deux Allemands hors d'état de nuire. Mais Müller la rattrape. Elle tente de claquer la porte de sa chambre sur son nez. Il coince son pied dans le chambranle. Il force. Il débloque la porte, fonce sur Jeanne. Il l'immobilise, lui tord le bras derrière le dos. Il la fait prisonnière et c'est en colère, plus que jamais en colère, qu'il redescend dans le salon. Là, le second policier allemand a déjà lié les frères Collard poignée à poignée, cheville à cheville. Perquisition peut commencer. Armes, documents secrets, missions en préparation. Les charges s'accumulent contre les patriotes belges. Désormais, ça ne peut que mal se passer.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire des frères Collard, de deux héroïques jeunes garçons originaires de Tintigny, qui en octobre 1917 se sont mis au service du réseau de renseignement allié, la Dame Blanche. Ils voulaient combattre les Boches, au nom de Dieu et pour leur patrie. Mais quelques mois plus tard à peine, ils sont arrêtés par hasard à Liège, alors qu'ils préparent une mission importante. Ils sont arrêtés par deux membres de la police secrète allemande qui assurent la lutte contre l'espionnage ennemi. Car les Allemands ont vite fait de reconnaître le problème de l'espionnage en territoire occupé. Depuis 1915, des affiches trilingues informent la population des actions constituant des faits d'espionnage. « Warnung an die Bevölkerung » peut-on lire en grosses lettres rouges sur les murs des villages. Sont considérés comme espionnage ou haute trahison le fait de noter, de conserver ou d'envoyer des faits militaires comme le déplacement des troupes, le transport par chemin de fer, les horaires des chemins de fer, les renforts et les fortifications, les plaines d'aviation, les dépôts de munitions, les automobiles, les numéros des épaulettes, etc. sont considérés comme soutien chaque communication orale ou chaque transmission directe ou indirecte de faits, l'invitation à l'espionnage, le questionnement de soldats allemands, etc. C'est ce qu'ont fait Louis et Anthony Collard. Recruter des agents et les entraîner à fournir toute indication précieuse sur l'occupant aux alliés. Les deux frères sont transportés au poste allemand à deux pas du pont de Wandres, ce fameux pont qui enjambe la Meuse et le canal Albert à hauteur de Herstal. Ils attendent là, toujours ligotés, des heures durant, avant d'être transférés en voiture cellulaire au palais des princes-évêques de Liège, siège de la Kommandatur de l'occupant allemand. Sur la place Saint-Lambert, ce palais épiscopal est l'actuel palais de justice. Dans une grande pièce en désordre, meublée de tables, encombrée de fauteuils décharnés, Louis et Anthony subissent leur premier interrogatoire. Le premier d'une longue série. Les Allemands veulent tout savoir sur leur réseau de renseignements. Ils sont convaincus d'avoir mis la main sur deux éléments phares du service. Et ils ont raison. Mais Louis et Anthony l'ont promis lors de leur serment à la Dame Blanche. Ils ne diront rien. Ils resteront muets comme des tombes, quitte à en mourir. Pendant plusieurs mois, la police allemande instruit le dossier sous la tutelle de la Centrale Polizeistelle, établie à Bruxelles. Et pendant ce temps-là, les frères Collard croupissent à la prison Saint-Léonard, réquisitionnés par les autorités d'occupation depuis le début de la guerre. Ils sont placés à l'isolement, c'est-à-dire qu'ils ne voient absolument personne. 4 mois vont ainsi passer, 4 mois de longues journées, interminables. Il est difficile de se représenter combien cette solitude fragilise. Comment elle place le prisonnier dans une angoisse sourde, lancinante. Il est sans information. Il ne mesure ni la situation dans laquelle il se trouve, ni la menace qui pèse sur son entourage. Il est dévoré par l'incertitude et le désœuvrement. Les Collards sont en plus soumis à un régime de famine. Les deux solides gaillards ne reçoivent qu'un morceau de pain le matin, un peu de soupe à midi, un peu moins encore à 6 heures. Alors évidemment, leur corps a vite dépéri. Leur énergie baissée, laissant toute la place au désespoir. Sur les murs de sa cellule, Louis écrit « De grâce, secourez-nous, nous mourons de faim !» et Anthony d'ajouter « Du pain, du pain, du pain !» Les interrogatoires se succèdent. Les Allemands alternent 2 grandes stratégies pour faire parler leurs prisonniers. Enfin, pour tenter de les faire parler. La première est une véritable torture psychologique. Elle consiste à faire croire à l'un des frères que l'autre a avoué. Qu'ils sont perdus donc. Qu'il ne sert plus à rien de se taire. C'est du bluff. Autre variante du supplice. Les Allemands font peser une menace de mort sur un des proches des Collard. Ainsi leur disent-ils que leur père, Léon Collard, a également été arrêté, ce qui est vrai. Que leur sœur, Marie-Thérèse Collard, est aussi en prison, ce qui est faux. Et ils leur répètent que l'un comme l'autre seront bientôt fusillés s'ils ne parlent pas. La deuxième pratique d'interrogatoire est beaucoup moins stratégique. C'est une simple bastonnade. Les violences ne sont pas systématiques lors des interrogatoires des résistants au cours de la Première Guerre mondiale, mais c'est à Liège, à la prison Saint-Léonard, qu'elles sont les plus fréquentes. On sait que les policiers allemands aimaient y mettre nus leurs prisonniers et les battaient à coups de canne et de chaise, parfois jusqu'à l'évanouissement. Louis et Anthony subissent pareil traitement. Des témoins les décriront la figure et le corps couverts de contusions, d'ecchymoses et de sang. Plus d'une fois, ils sont ramenés inanimés sur la couchette de leur geôle. Ils n'ont toujours rien dit quand, le 28 juin 1918, Louis et Anthony passent, avec 5 autres prisonniers, devant le conseil de guerre de Liège, un tribunal militaire allemand. Ils vont être jugés en vertu d'un arrêté impérial de 1899 qui étend le droit de guerre allemand aux territoires occupés. Ainsi, les patriotes belges sont donc susceptibles de tomber sous le coup d'une législation impitoyable qui prévoit la peine de mort pour les trahisons de guerre. Ironique, n'est-ce pas? De quelle trahison parle-t-on? Les Belges pouvaient-ils vraiment être coupables de trahison envers l'Allemagne? Ces procès sont des comédies, des simulacres de justice. 5 autres prisonniers sont sur le banc des accusés, aux côtés des frères Collard. Il y a Léon, le père des 2 jeunes gens, l'abbé Arnould, Jeanne Goessels et un couple d'amis, les Bastin. Tous sont bien des agents de la Dame Blanche. Un policier allemand vient témoigner contre la petite troupe, en allemand. On n'y comprend rien. C'est à peine si les prisonniers reconnaissent le nom de localité belge et peuvent suivre ainsi le récit de leurs exploits dans la zone d'étape. S'ensuit le réquisitoire de l'auditeur militaire, en allemand également. Comprennent qui pourra. Seules les peines requises font l'objet d'une traduction. Mais la sinistre expression « Todesstrafe » n'a pas besoin d'être traduite. Les espions le savent. C'est la mort que réclame l'auditeur militaire. Pour sauver les apparences, deux avocats allemands prennent la défense des accusés. Il arrive que des avocats belges interviennent dans les procès de résistants, offrant gratuitement leur service aux victimes du système répressif allemand. Mais si cela arrive à Bruxelles, ce n'est jamais le cas à Liège. Les avocats sont donc allemands et à nouveau, ils parlent allemand. Et à nouveau encore, on n'y comprend rien. De toute façon, leur plaidoirie est courte. Ces défenseurs recrutés au sein de l'armée allemande peinent à prendre le parti de personnes qu'ils considèrent comme des ennemis. Ils plaident pour la forme, sans conviction aucune. Ils n'ont eu aucun contact avec leurs clients avant le jour du procès. Ils n'ont même pas pu consulter leur dossier. Mais s'ils avaient pu, l'auraient-ils fait ? À l'issue des plaidoiries, Louis et Anthony regagnent leur cellule à la prison Saint-Léonard. Ils doivent attendre quelques jours pour connaître leur sentence. Le conseil de guerre rend en effet son verdict en l'absence des accusés et les sentences doivent ensuite être confirmées par le gouvernement militaire. Le 2 juillet 1918, l'auditeur militaire en personne, escorté par trois soldats, se rend dans la cellule des prévenus pour leur signifier leur sentence. Ils sont condamnés à mort. Une telle condamnation à mort est irréversible. L'appel n'est pas autorisé, impossible de remettre la décision en cause. Pour échapper à la sentence, le condamné peut tout juste introduire une demande de grâce auprès de l'empereur allemand. Bon, soyons clairs, ce n'est pas l'empereur lui-même qui traite la requête, mais un auditeur militaire spécialement désigné à cette tâche. Si l'empereur décide de gracier le condamné, la peine est commuée en travail forcé à perpétuité et la déportation en Allemagne devient inévitable. Si la grâce n'est pas accordée, la sentence ne se fait pas attendre. Elle est habituellement exécutée le lendemain matin. Or, le 17 juillet 1918, les frères Collard apprennent que leur recours en grâce est rejeté. C'est étonnant, car depuis 1916, les Allemands appliquent moins souvent la peine de mort. Les exécutions devaient insuffler la crainte, mais ils ont remarqué qu'elles renforçaient plutôt le patriotisme et entraînaient un sursaut de vengeance. La contrainte engendrait plus de résistance. La résistance, plus de contrainte. D'ailleurs, les peines des co-accusés des Collards, de leur père, de leurs amis et de Jeanne, sont converties. Mais le cas de Louis et Anthony est estimé trop grave, impardonnable. Personne ne doit ignorer au sein de la population belge que l'espionnage mène invariablement à la mort. Louis et Anthony seront fusillés le lendemain. Il ne leur reste que 12 heures à vivre. Les dernières heures des frères Collard vont suivre le rituel de tous les condamnés. Ils ont d'abord droit à une visite de la famille. C'est Léon Collard, leur père, qui les rejoint alors. Ils ont 15 minutes ensemble. Un simple quart d'heure, passé sous le regard inquisiteur du directeur de la prison, de quelques officiers allemands et d'un traducteur, s'assurant qu'aucune information secrète ne puisse passer. Ensemble, les trois hommes s'agenouillent et prient. Ils communient comme ils l'ont toujours fait. Ça les transporte à cette époque d'avant-guerre, quand toute la famille se rassemblait dans la prière. Aucune larme n'est versée. Au signal, le père embrasse ses fils. Il trace une croix sur leur front. Louis et Anthony se relèvent, s'éloignent dans le sombre couloir et, se retournant, ils promettent. « Au revoir, papa. Papa, on se revoit au ciel. » Une voiture cellulaire emmène ensuite les frères au fort de la Chartreuse. C'est dans la cour de celle-ci qu'ils seront exécutés. Ils passent leur dernière nuit dans une cellule commune, meublée d'une table, d'une chaise et d'un lit de camp. Qu'importe, qu'il n'y en ait qu'un. Ils ne dormiront pas. Non, ils vont plutôt écrire, toute la nuit. Ils vont écrire à leur famille. Et ces lettres, nous les avons encore. Missive doloriste, dans lesquels ils proclament leur bonheur de mourir pour la patrie. Ainsi, Anthony, écrit-il, j'accepte avec joie et avec bonheur le sacrifice que vous me demandez, ô mon Dieu. Soyez bénis, remerciés, glorifiés, ô mon bon Dieu, du bonheur que vous me donnez en me donnant de mourir pour vous. Un prêtre passe la nuit avec eux. Dehors, l'orage éclate, rendant le huis clos plus sinistre encore. À 2 heures du matin, Louis écrit « L'heure suprême approche, et voyez ma main est ferme. Oh, ne pleurez pas sur nous. » À 3 heures du matin, un soldat allemand vient chercher les lettres d'adieu. Le prêtre insiste pour qu'on leur laisse encore un peu de temps, mais non, non, c'est la consigne. À 4h45 du matin, les frères Collard assistent à une dernière messe. Et puis c'est l'heure. Nous sommes le 18 juillet 1918. Il est 5h du matin. Le soleil caresse doucement la terre. Les oiseaux pépient gaiement. Les pins embaument l'air. Louis et Anthony quittent leur cachot. Ils ont le pas ferme, la tête haute. Ils chantent. Ils entonnent le Magnificat, l'hymne catholique qu'ils préféraient fredonner pour s'endormir quand ils étaient petits, dans les chambres attenantes de Tintigny. 300 mètres. 300 mètres les séparent des poteaux d'exécution. Bientôt, ils y sont attachés. L'auditeur militaire entame la lecture de la sentence. L'aumônier prie une dernière fois avec les condamnés. « Vous ne souffrirez pas », leur promet-il. « Eh bien, je voudrais souffrir, pour être plus digne de Dieu qui me rappelle à lui », répond Louis. Un officier allemand leur bande les yeux, puis il donne l'ordre au commandant de chaque peloton de faire exécuter la sentence. Il y a là 2 rangs de 10 soldats, l'arme levée. Ils ont l'ordre de viser le cœur. Il n'y aura qu'une salve. Les corps s'affaissent, criblés de balles. L'aumônier se précipite pour donner l'extrême onction. Le médecin constate le décès. Des prisonniers russes délient les corps et déposent les martyrs dans les cercueils. Ils les descendent dans une tombe supplantée d'une petite croix, portant cette simple épitaphe. 18 du 7 18. Collard Louis, Collard Anthony. Louis et Anthony Collard sont les derniers fusillés de la Chartreuse. Ils font partie des 274 agents de renseignement exécutés par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Ils avaient 20 et 21 ans. Ils sont morts moins de 4 mois avant la fin de la guerre. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Céline Raz.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.